Bonjour à toutes et tous. Et puis, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr. Nous sommes tenus un peu par les horaires, hein, puisqu'il y a une succession de conférenciers et nous avons une petite heure devant nous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ce matin, Jacques Chollet. Jacques Chollet, qui est lorrain depuis un peu plus de 50 ans, bien qu'il soit né.
56 ans. Bientôt 57 ans.
Voilà. Bien qu'il soit né à Angers, il a trouvé la Lorraine très intéressante. Et depuis, il s'est installé. Il est installé d'ailleurs à Laxou. Sa longue carrière professionnelle lui a permis de voyager au travers de toutes les Vosges, de voir les Cévogiens, maintenant qu'il connaît très bien. Il est passionné d'histoire et depuis qu'il est en retraite, il s'est surtout intéressé à la vie des maçons et il nous fait découvrir l'univers des maçons, lorrain principalement. Son dernier livre, l'histoire secrète, non c'est pas son dernier, c'est l'avant-dernier, l'histoire secrète du convent de la Visitation de Nancy et de ses mères supérieures alsaciennes, nous fait entrer dans l'intérieur d'un couvent avec ses rites, ses rituels. Et dans ce couvent, il y a une particularité, c'est que le loge a pu être...
Ah non, c'est pour ça.
Ah oui, ça y est.
Ça y est, excuse-moi, on est calé. Et donc, dans cette loge, enfin dans ce couvent, a été installée une loge maçonnique. C'était une particularité, quelque chose de tout à fait étonnant, hein, surtout dans un couvent de visitandines, de sœurs. Il va nous faire découvrir au travers de son reportage, ça comme ça, que la vie de ce couvent, où les rituels de la liturgie, de l'Église, se confondent quelquefois avec les rites et les rituels de la maçonnerie. Donc, ça va être cette plongée dans l'histoire passionnante de ces deux entités différentes, mais complémentaires pendant à peu près un siècle. Je vais laisser la parole donc, à notre invité, Jacques, qui va vous faire découvrir justement cette particularité du XVIIIe siècle en Lorraine.
Merci. Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Donc, coexistence entre rituels maçonniques et liturgiques catholiques au couvent de la Visitation de Nancy au cours de la décennie 1740. Un rituel maçonnique dans le monastère des religieuses de la Visitation de Nancy au cours de la décennie 1740 par des francs-maçons militaires d'un régiment de cavalerie pourrait de prime abord paraître aux yeux du public comme irréalisable si cela et cela se comprendrait. En effet, comment un rituel maçonnique impie, marqué du sceau de la condamnation de la franc-maçonnerie par la bulle pontificale de Clément XII en 1738, aurait-elle pu franchir la clôture régulière jusqu'au cœur de la réclusion et coexister en quelque sorte avec le rituel liturgique catholique des ferventes religieuses qui suivait scrupuleusement les directives de Charles de Tervenu, le curé de la paroisse Saint-Roch, leur directeur spirituel, et prédicateur, ainsi que celle de l'abbé L'Huillier, leur confesseur, de 1738 à 1745, et dont elles auraient pu craindre un refus catégorique. D'autre part, n'oublions pas non plus que les autorités ecclésiastiques supérieures, présidées dans ce moment-là par le cardinal de Toul, qui avait pu, séance tenante, faire cesser cette aberration et morigéner sévèrement la supérieure du couvent. Pourtant, il n'en fut rien. Et la supérieure de monastère, Louise Françoise de Rosen, suite à une demande émanant de son neveu, le chevalier N. Éléonore de Rosen, propriétaire du régiment de cavalerie du même nom, de lui permettre d'utiliser un local du couvent afin de venir pratiquer l'art royal une fois par semaine, chaque vendredi, lui donna son autorisation. Il faut dire que la mère de Rosen, sur le point de mourir et nourrissant pour son neveu une affection toute filiale, n'eut pas le cœur de refuser. C'est ainsi qu'un accord fut conclu. Les religieuses s'engageaient à abandonner une pièce tous les vendredis de 21h à 24h et devaient de plus préparer la salle. En contrepartie, les maçons devaient verser mensuellement une somme de 7 livres. La salle fournie ne respectait aucun des usages maçonniques. Elle était orientée nord-sud, alors que la coutume demandait une orientation est-ouest. Les dimensions de la salle n'étaient pas non plus conformes. Pour respecter les usages, les religieuses devaient disposer des panneaux amovibles qui réduisaient la pièce aux proportions voulues. Au plafond était tendu un drap représentant un ciel étoilé. On décorait la salle avec les symboles maçonniques, l'équerre et le compas, le triangle et l'œil de Dieu, l'étoile flamboyante, etc. Ainsi apprêtée pour le rituel maçonnique, la salle pouvait servir aux tenues hebdomadaires des maçons. Les militaires maçons étaient revêtus d'un tablier de cérémonie. Tout ce manège ressemblait fort à, pour certaines de nos pieuses religieuses, un culte rendu à Satan. À la mort de la mère de Rosen en 1746, sa remplaçante, qui était sa nièce, Anne-Sophie de Rothenbourg, cherchait à se débarrasser de ses encombrants locataires. En réponse, les maçons en augmentèrent le montant de la pension versée. L'argument sembla avoir porté, les maçons purent rester. Toutefois, comment expliquer ce fait inédit dans un couvent de religieuses? Car nous verrons par contre que s'agissant de monastères masculins, et notamment en Lorraine, il était courant d'y trouver parmi le clergé régulier de nombreux francs-maçons, dont parfois le prieur était aussi le vénérable de la loge. Alors pourquoi la visitation de Nancy, le couvent le plus huppé de la ville, où s'y trouvaient bon nombre de religieuses issues des plus grandes familles de Lorraine, la chose était-elle rendue possible? Il faut dire déjà que la personnalité de la supérieure pouvait à elle seule l'expliquer. En effet, Louise-Françoise de Rosen, fille d'un maréchal de France, de Louis XIV, luthérienne au départ, emmenée de force d'Alsace avec deux de ses sœurs et une cousine au couvent de Nancy sur ordre de Louis XIV, toutes les quatre afin d'être converties au catholicisme, alors que les deux sœurs aînées, qui, elles, avaient fait de beaux mariages, étaient restées luthériennes, étaient dotées d'une forte personnalité, d'un caractère affirmé, ainsi que d'un fort charisme. Elle battit le record de supériorat au cours de sa vie monacale, et aucune autre supérieure de Lorraine et d'Alsace n'égala celui de Louise-Françoise de Rosen, puisqu'elle en compta rien de moins que 27 ans. Tous les monastères de la Visitation se l'arrachaient, et alors qu'un supériorat de Louise-Françoise arrivait à son terme, à Nancy, on ne put s'opposer au cardinal de Rohan, qui voulait en faire la supérieure du couvent de la Visitation de Strasbourg. Elle le fut pendant 6 ans, quand même. Pour faire une idée de l'importance de cette supérieure, on vit 50 mousquetaires l'escorter jusqu'à Strasbourg. À Nancy, les religieuses qui avaient été désolées de la voir partir réussir à empêcher qu'au terme de son supériorat de Strasbourg, le couvent de Metz puisse l'obtenir à son tour comme révérende mère. D'autre part, comme cette femme avait toujours l'intelligence en éveil, lorsqu'il était question de traiter une affaire intéressante le temporel, et d'ailleurs entre les périodes de supériorat, elle remplissait systématiquement la fonction d'économe, où elle excellait, ce qui peut expliquer l'accueil des francs-maçons dans le couvent contre monnaie sonnante et trébuchante, qui allait permettre d'améliorer le confort des bâtiments et de la chapelle délabrée. Aussi, on peut penser que cette fille de maréchal se retrouve encloîtrée et sacrifiée par rapport à ses sœurs aînées, sut se réaliser pleinement dans sa fonction de commandement, puisque dans un couvent, les sœurs regardent Dieu en elles, l'honorant comme le Saint-Esprit. Ceci étant, il faut se plonger dans l'ambiance générale du duché du roi Stanislas Leszczynski. où règne à ce moment-là une indépendance d'esprit manifestée par la tolérance et en particulier celle de s'adonner à la franc-maçonnerie, comparée à la situation dans le royaume de France où les francs-maçons sont empêchés de se réunir ou même pire dans d'autres pays catholiques où les francs-maçons sont même torturés et parfois pendus par l'Inquisition, notamment au Portugal. En France, dans les pas question, en France, bon, ils sont un peu pourchassés à Paris, mais enfin, on ne va pas tellement plus loin. En effet, il faut savoir qu'une loge maçonnique a été fondée à Lunéville en 1737. On la voit en bas, là, Lunéville. Et que sur les trois vénérables qui se sont succédés à sa tête, on en a un au moins qui est bien connu et prouvé indubitablement, le marquis de Tavannes-Choiseul. Donc le principe de l'acceptation de la franc-maçonnerie en Lorraine dans ce moment-là, précis, n'est pas surprenant. Surtout qu'on sait que les francs-maçons de Paris, pourchassés par la police du cardinal Fleury, prenaient l'habitude au beau jour de maçonner à Lunéville, où dont certains membres étaient inscrits au dehors. Quand de surcroît on apprend que le maître de camp du régiment vénérable de la loge installé au couvent des Visitandines n'était autre que le chevalier Félix Éléonore N. de Rosen, qui avait pour mère Marie-Béatrix Octavie de Gramont, c'est celui-là qu'on voit. Elle avait quatre neveux, donc il a fallu que je cherche pour essayer de trouver quel pouvait être ce fameux neveu. Bah oui, c'était un chevalier de toute façon, bah le voilà. Et vous verrez après que j'ai retrouvé le N qui manquait, N Éléonore de Rosen, qui était absolument indispensable à retrouver. Donc le fameux chevalier Félix Éléonore N de Rosen, qui avait pour mère Marie-Béatrix Octavie de Gramont, lié familialement à la famille de Choiseul, qu'on retrouve toujours parce qu'on voit par la suite qu'ils ont beaucoup financé la chapelle. Et que ce sera justement cette famille de Choiseul qui, bien plus tard, aidera financièrement la construction de la chapelle du couvent et figure des symboles maçonniques. On comprend mieux comment la loge maçonnique fut acceptée dans un monastère. En outre, argument supplémentaire pour ceux qui ne seraient pas convaincus de ce chevalier de Rosen, qui était propriétaire d'un régiment dont la devise était « Qui s'y frotte, s'y pique, on blaine, on ne peut plus, non, c'est yen, n'est-ce pas ?» Et le voilà donc ce fameux N que je cherchais partout. Je l'ai trouvé dans les archives quand même. Alors une question se pose toutefois et à laquelle il est urgent de répondre. Pourquoi les religieuses de la Visitation, qui on le voit bien au travers de leur inquiétude perceptible dans ce qu'elles exprimaient souvent, à savoir la triste tournure qu'à leurs yeux prenait l'esprit en ce XVIIIe siècle, qui voyaient les écrits irréligieux des philosophes modifier les consciences, ne faisaient pas le parallèle avec les francs-maçons. Car cette tendance qu'on perçoit bien chez elles ne fera que s'amplifier et qu'elles déploreront au fil des années. On voit bien dans leurs écrits, dans leurs archives, elles craignent la modification de ce qui se passe dans le pays, quoi. Les philosophes ne s'aiment pas. Tout simplement parce qu'à cette époque de la décennie 1740, la franc-maçonnerie n'était pas encore philosophique. Et qu'au sein des loges, on ne refaisait pas encore le monde comme on pourrait le faire plus tard, notamment à partir de Napoléon III, et surtout sous la Troisième République. Je crois qu'on a commencé un peu avant la Révolution, malgré tout. On a bien vu qu'à Toulouse, la loge l'Encyclopédique, en 1788, quand même, prônait les idées de la Révolution. Où l'antagonisme durable entre francs-maçons et cléricaux plongea les ecclésiastiques maçons d'Ancien Régime dans les ténèbres d'un épais oubli. Ce qui explique beaucoup l'ignorance qui prévaut encore maintenant, entretenant l'antimaçonnisme. Quand on lit les mémoires de l'abbé Georgel, l'ancien secrétaire du cardinal de Richelieu, celui de l'affaire du collier de Marie-Antoinette, alors que nous sommes pourtant situés dans une période plus postérieure à celle-ci, on remarque qu'il apprécie les francs-maçons, d'autant qu'il en est environné, mais en revanche qu'il déteste les philosophes. C'est après la Révolution que certains personnages décideront que ce sont les francs-maçons qui ont été les initiateurs de la Révolution, mais cela, on pourrait en parler, c'est un autre sujet assez vaste. Dans ce même contexte, il est une chose non négligeable, et dont il faut se persuader, c'est qu'à cette époque, parmi les membres influents de la société civile, surtout chez les hommes, et particulièrement chez les aristocrates, la ferveur religieuse était loin de régner. Une considérable hypocrisie prévalait, réservant la piété religieuse aux petites gens. Voltaire n'estimait-il pas que pour le repos de la société, il était préférable que le peuple croie en Dieu, un Dieu à la fois vengeur et rémunérateur pour contenir le mauvais instinct. D'ailleurs, c'est au lieu du clergé que cette ferveur et cette piété manquaient, souvent. Mais c'était le contexte de l'époque, de Louis XV, clair, non tonsuré, connu pour ses meurtres. Les exemples étaient légion. Rappelons-nous l'abbé Guillaume Dubois, futur ministre de Louis XV, clair, non tonsuré, connu pour ses mœurs dissolues, qui reçoit à la fois dans une seule messe basse, extra-tempora, à Pontoise, le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise. Par la suite, il recevra au Val-de-Grâce le sacre d'archevêque de Cambrai par le cardinal de Rohan, ce qui fera dire au duc de Mazarin que ce sacre va lui permettre au moins de faire sa première communion. De même, citons l'inénarrable Louis Hénard de Clermont-Tonnerre, dernier abbé commendataire de l'abbaye de Luxeuil, qui se faisait remarquer par un comportement dans la vie ecclésiastique pour le moins léger. Ou encore l'abbé Porquet, qui commence sa carrière d'aumônier du roi Stanislas en étant incapable, lors d'un repas royal, de réciter le Bénédicité, ce qui détermine le vieux monarque à lui dire avec humour: « L'abbé, il faut vous modérer, tâchez de croire à la religion dont vous êtes apôtre. Je vous donne un mois pour croire en Dieu. » N'oublions pas non plus l'évêque d'Autun, Charles Maurice de Talleyrand, tant le personnage est éloigné de la religion, certes talentueux et inexcédable négociateur diplomatique de la Révolution française jusqu'à Louis-Philippe, mais qui a si effrontément transgressé les directives de sa hiérarchie, entre autres en se mariant et à la fin de sa vie obtenant du pape, alors qu'il avait été excommunié, le pouvoir, quand viendrait son décès, de recevoir l'extrême-onction et avoir une cérémonie funèbre religieuse. Il est certain que tout le monde ne peut pas accéder à l'humanisme des abbés Grégoire et Seyès, ou même si on remonte plus en arrière, au trop méconnu curé Jean Bélier et son testament philosophique qui est à l'origine de l'athéisme et de l'anticléricalisme. Or, loin de ces abbés de cour, de ces prélats qui étaient déjà promus évêques parfois dès leur enfance, comme François Vincent Marc de Beauvau-Craon, considéré comme le chef de la franc-maçonnerie lorraine, un des premiers vénérables connus de la loge de Lunéville, primat de Lorraine dès l'âge de 5 ans, des ecclésiastiques sincèrement croyants et respectueux de la religion ne se comptaient plus dans bon nombre de monastères lorrains. Car les prêtres, soit séculiers, soit réguliers, ne rougissaient pas de se faire recevoir maçons et de fréquenter les loges. La loge de Lunéville seule a fourni un devinet, curé de Couvet, un grison, vicaire résident à Hérimesnil, un frère Leroy, curé, et un frère Gilet, vicaire, chanoine régulier en cette ville, un don Bernard Malin, abbé Bernardin de Beaupré, etc. À une messe du service chanté solennellement la chapelle de l'hôpital de Lunéville, on a officié triangulairement et les attributs de l'ordre maçonnique ont été prodigués non seulement dans l'église et autour de la représentation, mais aussi jusqu'à l'autel, au point qu'on pouvait se demander si on assistait à une messe ou à une tenue maçonnique. Bien entendu, on ne trouvait pas des francs-maçons dans toutes les corporations de moines, mais c'est surtout chez les bénédictins où se trouvait la plus importante proportion de par leur plus fort degré d'ouverture. Au travers de leur abonnement à des journaux, de leur lecture et d'ouvrages récents, leur fréquentation qui les rendait plus perméables aux nouveautés du siècle et davantage réceptifs. S'agissant de la Lorraine, comme on le sait, la maçonnerie, et plus particulièrement lunévilloise, est loin d'être de tendance anticléricale. Et depuis ses débuts, tout ce qu'il y a de plus chrétien, les maçons lorrains de l'Ancien Régime observaient toujours scrupuleusement leurs devoirs religieux aux bons chrétiens. La loge nancéienne Saint-Louis-Saint-Philippe de la Loire, fondée en 1775, organisera des services funèbres pour ses membres disparus, tandis que les frères de Saint-Jean de Jérusalem, fondés en 1772, s'obligeront à assister à une messe chaque veille de la Saint-Jean dans une église de Nancy. Parmi tous ces religieux, si on se réfère aux travaux de Cédric Andriot, en fait, tous les ordres étaient concernés. Qu'ils soient contemplatifs, les cisterciens, enseignants, chanoines réguliers de Notre Sauveur, hospitalier, frère de la charité de Saint-Jean-de-Dieu, mendiant, dominicain, carme, franciscain, minime, et même jusqu'aux plus rigoureux dans leur pratique de leurs vœux de pauvreté, les capucins. Comment expliquer alors que ces moines revêtent le tablier? Selon Cédric Andriot, on peut y voir trois raisons. Certains peuvent avoir été atteints dans leurs idées et dans leurs mœurs par la philosophie du siècle. Il y avait déjà au départ pas mal de jansénistes aussi parmi eux. Certes, il y en a eu, mais cela n'explique pas les réalités du XVIIIe siècle. Comme on l'a vu, ce sont surtout les bénédictins qui en représentent la plus importante proportion. Il pourrait y avoir eux aussi le côté, il pourrait avoir aussi le côté festif, c'est-à-dire la sociabilité de table avec une ambiance fraternelle et peut-être réformatrice qui a pu entrer en résonance avec la charité chrétienne. On peut avancer l'hypothèse aussi selon laquelle nombre de religieux, notamment mendiants, aient pu voir dans la bienfaisance maçonnique un prolongement de l'entraide congrégaliste. Alors, s'agissant des rituels appliqués dans ces loges maçonniques, civiles, que fréquentaient des religieux, ils étaient ceux que la plupart des loges en général utilisaient pour leur tenue, c'est-à-dire imprégnés de religiosité, du moins jusqu'à la Révolution. Ainsi, des prières collectives étaient prononcées, soit par le maître de loge, ou par un officier, ou par le chapelain, ce qui les rendait acceptables au nom de toutes les croyances. Cette pratique traditionnelle se trouvait associée aux plus anciennes pratiques de la maçonnerie. Les francs-maçons, comme dans tout l'Occident et l'Orient chrétien, ne dérogeaient pas de cette tendance générale qui caractérisait la société de l'époque, qui faisait qu'en tout lieu et en tout temps, avant le travail même le plus humble, on priait avant et après les repas. Le soir en se couchant, on priait tout le temps. Elle ne pouvait donc pas être absente chez les francs-maçons. Pour terminer, je voudrais vous parler d'un rituel très ancien dont on pense qu'une partie, la plus archaïque, a dû être utilisée pour la première fois dans la première loge de Lunéville, en 1737, appelée dit de Lunéville. Alors, il est intéressant pour les rituels chrétiennes et maçonniques qui se trouvent mêlés intimement, comme vous pourrez le constater. Oui, vous avez la fontaine des ablutions en bas, là, oui, tout bas. Sa vue d'avion, qui suit fontaine des ablutions. Les frères, quand ils rentraient, ils devaient se signer devant la fontaine des ablutions. Que voyons-nous? Près de la porte du temple, derrière le siège du second surveillant, se trouvait la fontaine des ablutions qui permettait à chaque frère de se purifier à l'entrée. La présence d'une cloche était prévue au cours de l'ensemble du rituel à plusieurs reprises pour annoncer les prières. Comme c'est toujours le cas à l'heure actuelle, le volume de la loi sacrée, la Bible, était placé sur l'autel, alors que maintenant, dans certaines loges laïques, il peut être remplacé par autre chose, qui peut aller jusqu'au livre blanc même, hein, donc toutes les loges sont blanches. Hein. Ça arrive dans certaines loges. Là, vous avez une vue d'avion et une vue encore. On voit l'hôtel, à l'hôtel d'Orient, là. Alors, vous avez le tabernacle. Ici, le tabernacle. Hein. On voit là aussi, ici, le tabernacle. Ou l'arche d'alliance, hein, en forme d'une boîte carrée aux angles ornés d'angelots. Et derrière, sur le mur, une croix cerclée. On voit la clé cerclée. On pense qu'il y a une rige un peu templière, un peu. Pour ce rite, je ne veux pas dire qu'on croit qu'on descend des Templiers, même à l'époque, bon, on peut peut-être croire des choses comme ça. Enfin, oui. À droite du tabernacle, on voyait une petite lampe rouge, la Custodia Lucis, petite lampe rouge, là, qui était toujours allumée durant toute la durée de la tenue, protégée, Custodia Lucis, et à gauche, une coupe verte et dorée, Ici, là. À droite de l'hôtel d'Orient était posé un petit coffre, recouvert d'une étoffe bleue, avec un galon et des franges d'or et portant
Marie, ici, on voit la Vierge. C'était la Vierge. C'était, donc, on, c'était pas christique, c'était Marianne. Ça, c'est curieux. Marianne.
À gauche de l'autel d'Orion était positionnée une petite table.
Petite table, là.
Avec le hanap, portant le hanap des libations. Et de chaque côté de celui-ci, l'urne des parfums et un plâneau.
Bon, alors ça, c'est des... On pense que ce rite, après, par la suite, est devenu la stricte observance templière, et après, devenu, après, le rite écossais rectifié, très imprégné de chrétienté. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs.
Merci, Jacques.
Bien sûr, si je peux répondre.
Écoutez, je vais vous donner la parole si une personne souhaite avoir la parole. Oui, François.
J'ai fait ma scolarité au lycée du Poincaré à Nancy et mon père était enseignant, je n'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce qu'il y a encore des choses que l'on voit? Et la salle qui était en photo, je ne me souviens pas du tout de cette salle, elle se trouvait à quel endroit?
C'est quand on veut rentrer dans la chapelle, oui. Et bien sûr par l'intérieur, hein, pas par l'extérieur, parce que la porte est fermée. Hein. Quand on veut rentrer par l'intérieur, il y a une grande salle, hein, c'est ce qu'on voit où il y a des chaises encore, parce que, bon, il y a pas des chaises là, et la loge était à l'étage, on voit là. On la voit de profil. Là, on la voit de profil, là. Hein, mais je n'ai pas pu photographier en profondeur, non, parce que là, il y avait plein de chaises encore. Hein. C'était vraiment moche, alors je n'ai pas pu. Hein, tout ça. Et puis en bas, alors. Et là, bon, voilà. Il y a une grande salle en bas. Alors, cette salle a été longtemps, à la Révolution, un endroit où on remisait tout ce qu'on avait piqué au monastère et aux émigrés. On mettait tout ça là, puis après, c'est devenu un peu en attendant qu'il y ait un musée. Quoi. Mais donc là, c'était tout en haut, là. Tout en haut, là, c'était pas grand, hein, mais ça suffisait pour la loge militaire, voilà. Alors, il y avait, paraît-il, des monsieur François, Jean-François Clément, qui était l'ancien président des anciens élèves du lycée Poincaré, lui a vu des symboles maçonniques qui étaient sur les murs, mais qui ont été après, par la suite, effacés. Ils avaient passé à la peinture, le chaud, je ne sais pas quoi, on ne les voit plus. Mais il les a vus. Oui, non, mais moi, à l'époque, j'étais très dubitatif, comme beaucoup d'historiens nancéiens, hein, on était dubitatif, alors... Je me suis dit, il faut quand même que j'essaie de tirer ça au clair. Là. Je me suis penché sur le problème. Et puis, à force, j'ai trouvé, effectivement, ça concordait tout à fait. J'ai retrouvé ce fameux neveu, effectivement, qui était un chevalier. C'est une famille des Gramont. On se demande comment on aurait pu inventer ça, un truc comme ça. Il a fallu pas mal fouiller dans les archives pour trouver ça. Et donc, effectivement, non, voilà. Mais il y avait des symboles maçonniques, là, je ne les ai pas montrés, mais... Bon, alors ça, faut... Bon, les symboles maçonniques, alors il ne faut pas confondre, parce que les francs-maçons de 1740... sont pas les mêmes qui sont à l'origine de la chapelle en 1788. Les travaux commencent en 1783, et c'est d'autres francs-maçons. C'est d'autres francs-maçons parce que c'est certainement un couvent qui a été protégé par les francs-maçons. Hein, faut pas oublier quand même que la dernière vénérable maître, c'est la sœur du grand Gérard, qui était le premier ambassadeur des États-Unis, ambassadeur de France aux États-Unis. C'est lui qui a fait toutes les tractations avec les émissaires américains pour que la France reconnaisse
l'État américain. Et alors, cet homme-là, c'est lui qui a été accueillir Marie-Antoinette quand elle vient de pour se marier avec Louis XV. Elle l'accueille, il l'accueille sur le pont de Kiel, là, et il l'emmène où ? Il l'emmène à Nancy, et il l'emmène au couvent de la Visitation, visiter la Visitation, où il va rencontrer sa sœur, qui est la supérieure. Vous voyez, c'est... Oui, donc c'était... Donc, il était franc-maçon, le grand Gérard, là, c'était... Bon. Donc, vous voyez, c'est... Le frère aussi était franc-maçon, qui était également ministre de Choiseul. C'était deux ministres de Choiseul, les deux. Et la famille Choiseul a beaucoup participé à la... Et puis, celle qui a beaucoup œuvré, c'était Béatrice de Choiseul, qui était, quand elle était ici, elle était toujours fourrée au couvent. Hein, Béatrice de Choiseul, c'est une pauvre femme qui a terminé à la guillotine, d'ailleurs. Hein. Mais elle était toujours fourrée. Alors, elle a énormément travaillé pour qu'il y ait de l'argent. Alors, les francs-maçons, paraît-il, voulaient avoir des symboles maçonniques. Bon, alors, les symboles maçonniques, bon, ce sont des symboles qu'on peut considérer comme... Comme chrétien, alors c'est très difficile parce que bon, quand on multiplie le nombre des rainures sur la colonne et puis qu'il y a 8 colonnes, 7 rainures, on tombe sur le nombre de motifs qu'il y a sur le dôme de la chapelle et donc alors voilà c'est le chiffre de il y a le symbole de la naissance du monde en 6 jours, enfin, il y a tout. Et alors, moi, je suis un peu dubitatif, est-ce que c'est vrai ? Moi, j'avoue que je suis... je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être des symboles maçonniques, mais il faut vraiment être un spécialiste de cette symbolique pour en avoir vraiment la détermination sûre. Quoi. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes maçons. Hein. Ceux du chevalier N. de Rosen... Bon, comme c'était une loge militaire, à mon avis, il n'a pas dû rester 107 ans non plus. Hein. Ils ont dû momentanément, pendant un certain temps, avoir cette loge maçonnique grâce à cette supérieure qui était sa tante. Voilà, voilà c'est ça. Mais par la suite, c'est d'autres francs-maçons. Oui.
D'ailleurs, on voit que le portrait de cette Louise Françoise de Rosen... Ouais, c'est une forte personnalité. Je ne sais pas si c'était bien représentatif.
Si.
On voit que c'est une forte personnalité.
C'était une femme très forte. Elle était capable, par exemple, quand c'était cassé le bras. Elle s'était cassé le bras avec un calvitieux. Donc elle ne pouvait pas se servir de son bras. Alors elle a dit, recassez-moi le bras. Alors on lui a recassé le bras, sans anesthésie. Ah oui. À force de prier, elle avait des loupes au genou. Et alors, elle ne pouvait plus marcher. Alors, on lui perçait les loupes carrément comme ça. Là. Elle était terriblement. Elle était fille d'un maréchal, mais elle voulait se mortifier. Et donc, elle demandait à avoir les plus vils travaux. Alors, on ne voulait pas, parce que c'était une fille de maréchal. Ben, si. Alors, elle récurait les sols, elle faisait tout ça, elle voulait à tout prix. Ah oui, c'était une femme exceptionnelle. Hein. C'est pour ça qu'elle a été révérente, pendant 27 ans. Oui, c'est une femme. Et à Nancy, personne ne savait ça. Ça, j'étais content parce que c'est quelque chose, c'est une révélation, cette histoire du couvent de la Visitation. Ah oui, vraiment, là, on découvre des choses extraordinaires. Oui, il faut voir. Oui, mais c'est très... Puis après, elles deviennent des pires catholiques qui soient.
Et mais pire, la relation, ouais, effectivement, avec le clergé devait être très tendue à cette époque.
Comment ?
Les relations avec le clergé devaient être très tendues ?
Non.
Non ? Puisqu'elle a dû imposer quand même par force.
Non, 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 elle était adorée. Hein. Le cardinal de Rohan, il est venu spécialement la chercher pour qu'elle devienne révérende de Strasbourg. Alors, elles ont envoyé également des sœurs à Vienne. Elles ont été à l'origine du couvent de Vienne en Autriche. Ce qui fait que quand Marie-Antoinette elle vient parce qu'elle connaît, les religieuses de certaines. Et quand l'empereur vient, il vient également au couvent de l'empereur. Quand il vient. Il vient pour voir son Marie-Antoinette et puis son beau-frère. Il vient. Et voilà, parce qu'il est franc-maçon aussi, lui, hein, et il vient pour visiter les loges maçonniques. particulier l'empereur d'Autriche. Je raconte ça, il y a des anecdotes à ce sujet-là, parce que c'est très amusant comment il est reçu là-bas. Il n'est pas content. Hein. Oui. Non, mais il y a des tas de... Oui, c'est très amusant parfois. On rit un peu. Il n'y a pas que de la mortification et des choses affreuses. Quoi. Il y a des choses parfois amusantes. Quoi. Oui.
Si vous voulez poser des questions...
Me pose la question. Une question, les choses amusantes, est-ce que vous pouvez nous en raconter quelques-unes, des choses que vous avez découvertes? Et puis, deuxième question, Rosen, le nom vient d'où? Je pose la question parce que je connais quelqu'un qui vient d'un ghetto de Roumanie, enfin, il est mort depuis longtemps, et qui s'appelait Rosen.
C'est marrant. Les deux Rosen, c'est une famille noble qui venait de Suède. C'était des Suédois et qui ont fait partie des... Ils étaient en particulier trois frères qui ont fait partie des généraux de Saxe-Weimar, ce terrible militaire suédois qui a ravagé la Lorraine. Hein, et alors, il avait trois généraux qui étaient les trois frères. Et donc, le pire, ça a été le père des Rosen, des religieuses. C'était un homme qui était très cruel. Hein, il était protestant, pourtant, hein, mais bon, c'est pour ça que Louis XIV, pour qu'il devienne un général français, il m'a demandé de se convertir. Il s'est converti au catholicisme. Et puis, finalement, il l'a envoyé en Irlande pour combattre les protestants. Hein, puisque la France était amie avec les catholiques. Hein. Alors il est parti en Irlande, où là, il a été horrible. Hein. Il a précipité des gens du haut des falaises, des femmes, des vieillards, des femmes à la mamelle, avec les gosses, Puis après, quand il lui a demandé d'aller combattre les protestants dans les Cévennes, alors là, il les a passés au fil de l'épée aussi, ces anciens... Les amis protestants, oui, c'était terrible. Alors on pense que la religieuse, je me demande si elle n'a pas voulu absoudre un petit peu les horreurs que son père a pu faire, quoi. C'était terrible. Quoi. Oui. Donc la famille de Saxe-Weimar était terrible. Donc ils sont devenus après des Alsaciens. Hein, ils ont eu je monte dans le livre, on voit les châteaux qu'ils ont eu, les châteaux en Alsace, etc. Et ils sont devenus des Français après. Il y en a eu plein comme ça, des Suédois qui sont devenus Français par la suite, quoi. Oui. Et à un moment, les Suédois sont arrivés sur Saint-Nicolas-de-Port, ils ont ravagé Saint-Nicolas-de-Port, il ne restait plus rien. Et ils ont même violé toutes les religieuses de Saint-Nicolas-de-Port. Et alors les religieuses de Nancy, à la visitation, moi je vois dans les archives, elles avaient peur, hein. C'est parce que c'était pas loin, Saint-Nicolas-de-Port. Ils se sont dit, on va peut-être passer à la casserole aussi. Hein. Et non, heureusement, ils sont arrivés à Nancy et ils n'ont pas été trop durs. Ils n'ont pas tué les Nancéiens. Ouais. Mais autrement, les anecdotes, quand on est arrivé, celle-là, quand l'empereur vient, il a demandé à religieuse de surtout pas dire qu'il est empereur, hein, puisqu'il voyage sous le nom du comte de Falkenstein. D'ailleurs, on voit à Toulouse, il va dans les loges maçonniques de Toulouse, sous le nom du comte de Falkenstein, on sait très bien qui c'est. Quoi. Alors donc, il arrive au couvent, et puis alors les religieuses n'ont pas mieux fait, en fin de compte, puisqu'il fallait qu'on soit discret. Elles ont fait venir tout le gratin aristocratique de Nancy. Alors, il est furieux, et il abrège son séjour, il s'en va. Puis il part peut-être à Paris pour donner des conseils à son beau-frère comment faire des enfants à sa femme, quoi. Puisqu'elle n'arrive pas à faire des gosses, alors c'est à cette époque qu'il s'en va là-bas, quoi. Bon. Ouais, c'est des trucs amusants, quoi.
question, mais c'est vrai que c'était un beau voyage dans l'histoire, qui n'est pas si loin de Thème que ça, et une découverte de notre région et de ce qui a pu s'y passer, et les relations qu'il y avait justement quelquefois entre l'Église et la maçonnerie, ce qui est assez surprenant. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier à nouveau Jacques pour sa présentation.
J'ai amené quelques livres au cas où il y en a quelques-uns qui voudraient s'en rendre acquis. J'en ai quelques-uns, mais voilà. À ce moment-là, ça se fera en bas parce qu'on va laisser la place pour le futur conférencier.
Jean-Pierre ?
Oui, merci Jacques. Moi, je suis épaté quand même par tout le travail que tu as mené depuis maintenant. Alors, je n'ai pas le nombre d'années en tête. Mais je pense que ça fait au moins 20 ans que je te connais et 20 ans que tu travailles sur ces sujets. Et j'ai envie de te demander aujourd'hui, est-ce que tu as réfléchi à tous ces fonds documentaires, tout ce travail de recherche ? Qu'est-ce que ça va devenir un jour ? C'est pas une question piège.
Non.
Voilà. Je ne sais pas si tu comprends. Enfin,
Oui, ben je comprends ce que tu veux dire par là. Bon, il y a deux aspects. Bon, il y a l'aspect effectivement, qu'est-ce que ça va devenir, c'est-à-dire, est-ce que ces travaux, certaines personnes pourront s'en inspirer dans l'avenir si elles font des recherches sur ces sujets-là. Il est évident que, bon, c'est des livres qui existent. Ils sont tous à la bibliothèque Stanislas, par exemple, ou à la bibliothèque du musée Lorrain. Donc on pourra toujours les lire, et puis même dans certaines bibliothèques, je pense, oui. Et puis autrement, ce que va devenir ces travaux-là, je ne sais pas. Moi, je pense que peut-être qu'un jour, avec le modernisme, le modernisme de la technologie, le fait que on puisse scanner toutes les archives dans les bibliothèques, etc. On pourra certainement trouver des choses nouvelles qui peut-être soit corroboreront ce que j'ai dit, soit peut-être modifieront ou peut-être même nieront, parce que c'est vrai que c'est très difficile hein, d'aller dans les bibliothèques. Accessible, oui, puis disons scanné, donc parfois c'est difficile, hein. Bon, je vois par exemple les archives des notaires à Paris, bon, bientôt elles vont être complètement bouclées, mais ça aurait été long, quoi. Bon, je pense que moi, à ce moment-là, je ne serais plus là, je serais passé à l'Orient éternel, comme on dit.
C'est pas possible, Jacques.
Encore une fois, merci. Et puis, je vous invite aussi en bas. Donc, Jacques a quelques livres avec lui. Et si vous le souhaitez, il peut vous les dédicacer. Donc, encore merci, Jacques.
Mais je vous en prie.